We are the elements and our power is limitless. I'm not afraid, cause I'm the love. And you shouldn't be afraid.
Radio G 101.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de Radio G au 101.5 FM, à l'écoute de l'émission Radio Nippon, le programme qui vous fait voyager à travers la culture japonaise. Laissez-nous donc vous faire porter à travers cette culture, un mardi sur deux, à 13h, au fil des récits et des rencontres. Pour ce 40e numéro de Radio Nippon, ce sera un épisode un petit peu spécial. En effet, une ancienne membre de l'association Soleil Levant, qui est partie pendant plus de 6 mois au Japon, est revenue en France. Nous avons donc pris le temps de l'interviewer afin de pouvoir partager avec vous toutes ces petites astuces qui lui ont permis et motivé à vouloir faire ce voyage. Nous espérons sincèrement que cela va vous inspirer à pouvoir partir au Japon à travers ces récits. Mais tout de suite, juste avant de parler de Christylène et d'interviewer Christylène, retrouvons Jonathan qui a souhaité vous parler d'une petite entreprise japonaise, Sega.
Bonjour à vous. Aujourd'hui, petite rétrospective sur un sujet qui me tient à cœur, comme certains ont pu le remarquer à mes précédentes chroniques, les jeux vidéo. Pour ceci, remontons très loin dans le temps, au Japon, pendant la guerre de Corée, en 1951. C'est dans ce contexte de guerre que deux Américains fondèrent la société UMR & Stewart. L'activité principale de cette société est l'importation et la maintenance de jukebox à destination des bases militaires américaines sur le territoire japonais. En 1952, l'Américain Brownlee fonde la société Service Game, qui fusionna par la suite en 1954 avec UMR & Stewart pour devenir Service Game Japan. Cette société est maintenant tournée vers le marché grand public japonais. Son activité a cependant peu changé, puisque celle-ci réalise principalement l'importation de machines de divertissement, telles que des jukebox ou des arcades mécaniques, comme les flippers. C'est en 1960 que la société franchit un cap, avec la création d'une usine et un Nihon Goraku Busan basé à Tokyo. Ceci permit à la société de créer son premier jukebox, le Sega Miyu, dont le nom est la contraction utilisée jusqu'ici en interne pour Service Game. Si aujourd'hui, Sega est principalement connu grâce à Sonic, les plus vieux d'entre nous se souviennent certainement que la société a été un acteur majeur des jeux vidéo. Ceci entre 1980 et 2000, quand la guerre des jeux vidéo faisait rage. C'est en 1986 que Sega s'ouvrit à l'international avec la Master System, une version redessinée de la Sega Mark III destinée aux États-Unis. Une des particularités de la Master System est de posséder, en plus du port cartouche pour les jeux, un lecteur de cartes, le Sega Card, identique au U-Card de la PC Engine de NEC. Le lecteur sert également à accueillir des extensions pour connecter des lunettes 3D à destination de certains jeux. En 1990, la Master System 2, une version plus compacte de la Master System, sort en Occident et au Brésil. Elle abandonne le lecteur de cartes Sega Card et l'extension pour les lunettes 3D, mais dispose cette fois d'un bouton reset. À cette époque, la mascotte de Sega est Alex Kidd et non Sonic, qui arrivera quelques années plus tard. C'est en 1988, au Japon que sort la Mega Drive, le plus grand succès de Sega. Cette console 16 bits a été initialement créée pour concurrencer la PC Engine de NEC. Finalement, son plus grand concurrent sera la Super Famicom ou Super Nintendo, sortie en 1990. En 1992, Sega dispose de 55% des parts du marché en Amérique du Nord, dépassant Nintendo par la même occasion. Au plus fort, en 1993, la société détiendra 65% des parts du marché. Le succès de la Mega Drive ne se limite cependant pas qu'au marché américain, puisqu'elle récolte aussi beaucoup de succès en Europe, en Australie et au Brésil. C'est en 1993 qu'une seconde itération sort, la Mega Drive 2. Cependant, malgré les efforts de Sega, Nintendo reprendra petit à petit des parts de marché. C'est en 1997 que Sega mit fin à la production de la Genesis, afin de se concentrer sur de nouveaux projets. C'est durant cette période, d'ailleurs, que naîtra la mascotte de Sega, Sonic le Hérisson. Alors, qui est Sonic, me direz-vous? C'est le personnage principal d'une série de jeux, Sonic the Hedgehog. Il est aussi le héros de plusieurs comics, dessins animés et plus récemment d'un film. Le premier jeu vidéo, Sonic the Hedgehog, sort le 23 juin 1991. Le but est ici de doter Sega d'une mascotte qui puisse concurrencer celle de Nintendo. Initialement cantonné aux jeux de plateforme, Sonic s'est depuis initié à d'autres styles. comme jeu de course avec Sonic Air, les jeux de flipper avec Sonic the Hedgehog Pinball ou encore les jeux de combat avec Sonic Battle. Sonic est l'un des personnages de jeux vidéo les plus connus au monde, avec un total de jeux qui se sont vendus à plus de 70 millions d'exemplaires. Suite à l'échec de la création de deux modules d'extension pour la Mega Drive, le X32 et le Mega CD, Sega lança la Saturn en 1994. Cette console 32 bits, sortie avec un prix très élevé pour l'époque, environ 450 euros, dut subir la féroce concurrence de Sony et de sa PlayStation. Elle connaît cependant un succès assez important au Japon, où elle concurrença de façon très importante la PlayStation. Et ceci grâce à des adaptations de jeux d'arcade et au succès de la série Sakura Taizen. Elle bénéficie entre autres du soutien d'Atlus et de Capcom. Deux versions de la Saturn vont alors sortir au Japon ainsi qu'internationalement, avec comme différence un léger styling de la manette ainsi que des boutons de la console. Malgré les difficultés financières dues aux faibles ventes de la Saturn ainsi que des tensions internes entre Sega Japon et Sega US, la Dreamcast vit le jour en 1998. La Dreamcast est à sa sortie la première console de 6ème génération. Si la console est assez bien accueillie aux États-Unis et en Europe, grâce notamment à une forte campagne marketing de Sega, celle-ci est en revanche accueillie de façon très froide au Japon. Bien que la Dreamcast ait eu une courte durée de vie et un support limité par des développeurs tiers, les critiques l'ont qualifiée de console en avance sur son temps. Sa ludothèque contient de nombreux jeux considérés comme créatifs et innovants pour cette époque, parmi lesquels les jeux Crazy Taxi, Jet Set Radio ou encore Shenmue. Elle bénéficie aussi de nombreux portages de qualité de jeux Sega sortis sur l'arcade Naomi. Elle est également la première console livrée en standard avec un modem, lui permettant le support du jeu en ligne, de se connecter sur Internet afin de consulter des pages web ou bien de lire ses mails. Cependant, celle-ci ne survivra pas à la sortie de la PlayStation 2 et de son lecteur DVD. Après un changement de direction, Sega cessa la commercialisation de la console en mars 2001 pour l'Amérique du Nord, en 2003 pour l'Europe et en 2004 pour le Japon. Finalement, vous allez me dire, que reste-t-il de Sega aujourd'hui ? Aujourd'hui, Sega, au travers de sa section hardware, brille maintenant au niveau des bornes d'arcade, puisqu'ils sont le deuxième fabricant international de bornes d'arcade. Ils ont collaboré notamment avec Nintendo sur le projet Triforce ainsi qu'avec Namco. Ils sont par ailleurs producteurs de jeux à succès tels que Project Diva, Football Manager ou encore la série Total War, mais aussi les très connus Yakuza.
Et pour cette première pause musicale, je vais vous parler de Helical, ancienne chanteuse du groupe Calafina, qui a fait ses débuts en 2019 après la dissolution de son précédent groupe. Elle est labellisée depuis cette année avec la sortie de son premier single Alternate, qui sert d'opening à l'anime Gurepunir. Donc parlons peu, mais bien, de cet anime. Gurepunir nous raconte l'histoire d'un jeune lycéen, Shuichi, qui se découvre la capacité de se transformer en mascotte de chien. Après avoir sauvé Claire, une camarade d'école, elle le force à l'aider à retrouver sa sœur aînée, mais les deux jeunes ne savent pas encore dans quoi ils se lancent. Après avoir rencontré un autre monstre comme Shuichi, Claire découvre qu'elle peut se glisser dans la mascotte à l'aide d'une fermeture éclair dans le dos de celle-ci, et ainsi ne faire plus qu'un avec son camarade. Jusqu'où leur combat va-t-il les mener ? Pour nous plonger dans ce monde impitoyable, écoutons donc sans plus tarder l'opening de Gurepunir, Alternate.
ただ痛い思いは猫の足音知らぬ間に忍び寄って冷たてる残酷な選択したが愛としても、それが君のため。
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de Radio G au 101.5 FM dans l'émission Radio Nippon. C'est Xavier et maintenant, c'est moi qui vais prendre la suite de l'émission avec Christylaine.
Bonjour.
Pour cette émission, elle a eu la gentillesse de nous faire partager son expérience. En effet, elle vient tout juste de rentrer de 6 mois de voyage au Japon. Elle a donc souhaité faire partager son petit témoignage et son expérience du voyage. Je t'en prie Christylaine, si tu pouvais nous expliquer quel était ton projet exactement et pourquoi tu as eu envie de partir au Japon.
Alors mon projet c'était d'apprendre le japonais et pouvoir discuter avec des japonais pour avoir une vision réelle du Japon. Et pas juste une vision de touriste qui va au Japon.
Et du coup, pour aller là-bas au Japon, t'as pu utiliser quel type de visa ? Parce que de ce que je sais, c'est un peu compliqué les visas là-bas. Donc qu'est-ce que t'as fait comme démarche ?
Il y a énormément de visas en tant que Français pour aller au Japon. On a beaucoup de choix et on a beaucoup de chance pour ça. Et par rapport à ce que je voulais, celui qui correspondait le mieux pour moi, c'était le visa Working Holiday. On peut travailler avec.
Oui, parce que de ce que je me souviens sur les visas, j'avoue, il y en existe beaucoup. Alors déjà, on va faire un rapide speech et rappeler 2-3 petits points. En termes de visa, on sait que nous, Français, on a le droit de partir au Japon 3 mois sans visa, qui est quand même assez sympa, mais on a le droit que de faire de tourisme.
C'est ça.
Ensuite, il y a le fameux visa Working Holidays, donc vacances-travail. Le but du jeu, c'est majoritairement du tourisme avec possibilité de travailler pour arrondir ses fins de mois, sachant que dans les travaux, normalement, on n'a pas le droit à tout ce qui est travaux contraires aux bonnes mœurs, si je relis les textes.
C'est ça.
Donc, interdiction de travailler dans les bars, si je me trompe
pas. Tout ce qui est au milieu de la nuit.
T'as d'autres exemples ?
Bah, y a un nombre d'heures limitées et tout ce qui est milieu de la nuit en général, non, c'est bah... Au Japon, il y a beaucoup de hôtes, hôtesses, ça, il n'y a pas le droit. Les bars, tout ce qui est alcool, pur alcool, il n'y a pas le droit. Mais restaurants, c'est possible, même si c'est tard le soir, c'est possible.
Du coup, tu n'as même pas pu faire hôtesse dans un bar à chat ? Toi qui adore les chats.
Ah non, mais... non, quand je dis hôtesse, c'est club d'hôtesse.
Ah, pardon. Du coup, une fois qu'on a passé le working holiday, après, derrière, on rentre dans tout ce qui est visa à longue durée. Et là, dans les visas à longue durée, il va y en avoir beaucoup de possibles, mais il y a une chose à retenir surtout, c'est qu'il faut qu'on ait une personne du Japon qui fasse les démarches pour nous au Japon. Donc, c'est pas forcément super, super simple. Tout ce qui est visa travail, il faut que l'entreprise fasse les démarches. Visa études, il faut que l'université fasse les démarches. Visa époux, il faut que ce soit la conjointe qui fasse les démarches, etc. etc., etc. Voilà.
Ouais, après, visa étudiant, par exemple. Enfin, visa étudiant, c'est pas si compliqué à avoir. Moi, dans l'école où j'étais, ils avaient tous le visa étudiant. Ils n'avaient pas eu de problème particulier pour l'avoir. Oui. Visa époux, j'ai plusieurs amis, du coup, qui l'ont. C'est bien passé aussi. Ils n'ont pas eu plus de difficultés que ça. C'est long, mais comme tout projet administratif, j'ai envie de dire.
Surtout au Japon, oui. Non, le problème des certificats de longue durée, c'est qu'il te faut un COI, un Certificate of Eligibility, qui est demandé par un japonais à l'administration nippone. Donc à partir du moment où tu rentres dans les cases, aucun problème, on te le donne. Bon, c'est long, forcément, c'est une administration, mais il faut rentrer dans les cases. Et donc, il faut qu'il y ait une personne du Japon qui te donne ce COI. Alors, certificat étudiant avec les universités, c'est relativement simple, je me doute. Mais dès que tu veux du travail, il te faut une entreprise. Dès que tu veux époux, bah forcément, il te faut une personne mariée, quoi. Donc voilà, ça se fait pas. Enfin, disons que tu l'as pas comme ça non plus. On est d'accord.
Ouais, tu l'as pas comme ça, mais y a rien qui t'empêche de l'avoir, en fait.
Voilà, c'est ça.
Enfin, moi, je suis pas dans les clous de ce qu'attend le Japon, en fait. Pourtant, j'ai très bien réussi. Et en fait, enfin, tu vois, moi, je fais surtout cette interview parce que, avant de partir, j'ai été un nombre de fois incalculable, découragée par ce qu'on trouve sur les forums ou sur les groupes réseaux sociaux. Je trouve que c'est très décourageant. Les gens sont très négatifs. Il n'y a pas beaucoup de bienveillance. Il y a des gens qui posent des questions et tout le monde lui tombe dessus. Il n'y en a pas beaucoup qui sont positifs en disant t'as aucune chance, tu n'y arriveras pas, cherche autre chose, des choses comme ça. Alors que moi, j'avais pas du tout le profil type recherché. J'ai eu des petits soucis. En persévérant, je suis arrivée à faire ce que je voulais.
Et finalement, ça reste le principal, c'est persévérer pour réussir à passer la montagne. La montagne administrative. La colline administrative japonaise qui finalement n'est pas si compliquée que ça.
Oh, c'est pas que japonais, hein, c'est aussi côté français. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc oui, la demande de visa Working Holiday, c'est préparer sur... Le plus dur, c'est de préparer un planning sur un an. Parce que le visa est valable un an et il faut savoir ce qu'on va faire sur un an. Avec tout le détail, le budget, chaque chambre d'hôtel, si on fait des visites, comment on gagne de l'argent là-bas si on n'a pas de quoi vivre un an. Et dans le dossier de préparation pour la demande de visa, il faut avoir un minimum de revenus, 3500 euros ou 4500 euros en fonction de si on a le billet retour ou pas.
Oui, ils considèrent qu'un billet retour, c'est 1000 euros.
Ouais.
D'ailleurs, pour le travail, c'est une petite question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu as pu faire comme travail là-bas? Comment tu as réussi à t'y prendre pour travailler? Enfin, comment ça s'est déroulé tout ça?
Ça fait longtemps que je voulais partir, donc j'avais économisé assez d'argent pour me permettre de pas travailler tout de suite. Le travail, quand je l'ai trouvé, j'en cherchais pas, en fait. Je suis allée à un salon, j'ai rencontré un Français, il avait besoin de quelqu'un, il m'a proposé, j'ai dit oui, on a fait un entretien, voilà comment j'ai commencé à travailler.
C'était un travail dans quoi, si c'est pas indiscret?
Je faisais des macarons, j'ai travaillé un mois et demi, il y avait des Japonais, des Français, des étrangers. Ça se faisait en japonais, mais pas besoin de parler énormément.
Oui, donc finalement, en fait, ça s'est fait en douceur, t'as pu y aller en douceur, ça a été relativement tranquille.
Ouais, pour trouver du travail, oui. Après, j'ai aussi une amie qui a trouvé deux jobs, qui n'avait pas d'expérience professionnelle, qui avait 18 ans, donc pas encore de diplôme d'études. Tout s'est bien passé pour elle aussi.
Finalement, même si on est sans diplôme et autres, c'est relativement facile de trouver du travail au Japon. C'est assez tranquille, assez simple. La seule chose qu'il faut, c'est un peu provoquer ta chance de l'attraper, quoi.
C'est ça, c'est provoquer ta chance, ne pas se dire que c'est impossible. C'est simple si tu es comme moi dans une courte période. Parce que si tu es dans une plus longue période, forcément tu cherches un job un peu mieux. Moi, je t'ai payé au plus bas, c'était pas un job hyper intéressant. Si j'avais dû rester plusieurs années au Japon, j'aurais pas fait ce job-là. Là, c'est parce que je l'ai fait un mois et demi. Au mieux, je l'aurais fait 3 mois. Après, on se lasse, quoi.
Oui, d'accord. Donc, t'es resté 6 mois, t'as pu travailler du coup un mois et demi. De ce que tu m'as dit aussi, du coup, t'as dit que t'es allé dans une université, enfin une école de japonais. Ça s'est passé comment là-bas? C'était pourquoi cette école?
J'ai commencé mon voyage. Donc, je suis arrivée 3 jours avant la rentrée. Donc, ça a duré. J'ai fait une école de 3 mois. Au début, j'étais passée par un organisme qui organisait, contactait eux-mêmes les écoles, etc. Sauf que ça s'est pas très bien passé entre nous. Donc j'ai fait moi-même, avec l'aide de Japonais. Puis, et ils m'ont aidée une fois sur place. Ils m'ont aidée quand j'étais en France, ils m'ont aidée quand j'étais au Japon. Bah, aujourd'hui, ça reste des amis. C'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Du coup, l'école, j'ai pu m'en sortir donc avec l'aide d'amis japonais. Une fois là-bas, même l'école dans laquelle j'étais, Moi, j'étais à ALA. Ils nous aident énormément, que ce soit même pour trouver du travail, pour ouvrir un compte en banque. Ils sont venus avec nous.
Oui, donc même l'école japonaise, du coup, où t'es allée, a été très sympa et t'a aidé dans toute ta vie et tes démarches personnelles.
Ouais.
Ils t'ont aidé à ouvrir un compte. Ils t'ont aidé à trouver un logement aussi ou pas?
Alors non, le logement, je l'avais trouvé aussi avant de venir, avec l'aide d'un ami japonais sur Angers.
Bah, un ami japonais qui habite Angers, d'accord.
Voilà.
Et du coup,
aussi une amie au Japon, par contre. Parce que là où j'étais, ils demandaient à ce qu'il y ait une visite. Et je sais que beaucoup de gens qui partent plutôt en working holiday prennent une semaine en hôtel pour pouvoir visiter, parce qu'ils demandent en général la présence de quelqu'un.
Oui, et là, t'as réussi à éviter ça, parce que du coup, t'as une amie japonaise qui a pu visiter là-bas. Ouais. T'as pris un petit logement, du coup, c'était où au Japon?
Mon école était à Tokyo, mon logement donc à Tokyo aussi. J'ai privilégié un logement un peu plus cher, mais plus proche de mon école. J'étais en share house. Donc j'avais une chambre de 8 mètres carrés, ça fait pas beaucoup comme ça, et c'est pas beaucoup en fait. Par contre, j'avais tout dedans.
Quand tu dis share house, c'est une maison partagée?
Ouais, c'est ça, on était donc sur 2 étages, 13 à chaque étage.
Je sais de ce que tu m'as dit qu'il y avait une petite problématique aussi vis-à-vis des loyers et de la caution.
Oui.
Tu veux en parler un petit peu plus?
Oui, bah c'était. Alors c'est pour tout ce qui a rapport à l'argent du coup. C'est culturel. C'est un cadeau qu'on fait au propriétaire en fait. Et le cadeau correspond à un mois de loyer. Et en plus de ça, il y a une caution qui est quand même assez conséquente parfois. Et 2 mois de loyer d'avance. Autant dire que les 3500, 4500 euros sur le compte
clairement
pour avoir le working holiday, c'est pas assez, non.
C'est
pour vraiment bien vivre là-bas, c'est pas assez. Enfin, là, mon loyer, par exemple, était à 550 euros, je crois.
D'accord, c'est combien en yens exact?
70 000 yens. Et du coup,
faut penser à faire un ratio de 1 pour 125, si je me souviens bien. On est en gros dans ces taux-là, à peu près.
Ouais,
donc, en gros, on est dans les 550 euros.
4 fois, du coup, pour la première fois pour entrer.
Ah oui, rien que pour la première fois, oui. Donc
pour avoir le droit d'entrer dans l'appartement, c'est 4 fois...
550, ok, oui, voilà. Donc rien que déjà dès le départ, Vlan, tu payes 2200 euros presque. Voilà.
Bon, okay. Après, moi, l'avantage, c'est que c'était tout meublé, donc j'ai rien eu à acheter derrière.
Parce que j'avais lu aussi que les loyers tokyoïtes étaient relativement chers, c'était en général le principal poste budgétaire des familles japonaises ou même quelconque, c'est vraiment très cher l'immobilier là-bas. Tu ne fais que le confirmer, quoi.
C'est ça.
En gros, sur la totalité de ton budget de tes 6 mois, le loyer c'était combien à peu près? C'était 70%? Non, j'exagère.
Je suis désolée, j'ai pas compté ça.
Qu'est-ce que t'as compté du coup?
Alors j'ai compté à peu près 10 000 euros pour 6 mois.
Mm-hmm.
Ça fait pas énorme, mais il y a mon salaire compris dedans. Mon salaire d'un mois en yens japonais, du coup j'ai pris sur mon salaire plutôt que de prendre sur mon compte.
Ce qui est logique. Et t'as touché combien en termes de salaire si c'est pas indiscret?
1050 yens par heure.
Ouais.
Et 150 000 yens pour un mois et demi, ouais.
Ouais, donc t'as eu 150 000 yens en tout pour ton salaire. Donc là, comme ça, on est sur un peu plus de 1 000 euros. On doit être sur du 1250 à peu près, ou du 1200 euros à peu près.
Mmh.
T'as dû percevoir 1200 euros. Donc on peut presque dire que ton voyage t'a coûté un peu plus de 11 000 euros. C'est quand même assez important.
Oui, c'est un bon budget. C'est quelque chose qu'il faut prévoir, quoi.
Oui, ça fait longtemps que tu le prévois, toi, du coup.
Oui, voilà. Moi, je suis partie, j'avais au moins 10 000 euros de côté, quoi.
T'avais prévu bien longtemps à l'avance et en conséquence.
Je pense que pour être à l'aise, pour partir, il faut avoir au minimum 5 000 euros. Et pour profiter un maximum, il faut avoir au moins 10 000 euros. Si on veut pas travailler, bah plus. Sachant aussi que moi, j'ai pas fait énormément de gros restos, parce que la nourriture japonaise, c'est pas trop mon truc.
Ah, d'accord.
Mais ouais, désolé.
Non, mais t'as le droit. Hein. Tous les goûts sont dans la nature,
voilà.
Je suis désolé. Hein. Après, la nourriture japonaise, faut pas se limiter non plus qu'au sushi maki, qu'on soit bien d'accord.
Non, c'est pas ça. Alors là, pas du tout. C'est surtout que la nourriture, en général, moi je faisais pas resto tous les soirs, par exemple. Je sais que j'ai une amie qui aurait adoré faire resto tous les soirs. Moi, c'est pas trop mon truc.
Après, pourtant, avec la street food, moi j'avais entendu que c'était pas trop trop cher et que tu pouvais assez facilement manger pour 100, 150 yens, ce qui veut dire en gros 1 euro, 2 euros, quoi.
Alors, tu peux facilement manger pour 100, 150 yens, mais c'est pas au resto, quoi.
Oui, voilà.
Moi, à côté de chez moi, il y avait un petit curry à 450 yens qui m'allait très bien. Bon, bah, c'est pas grand chose, 450 yens.
Bah, en gros, t'es à moins de 4 euros, t'es à 3,50 euros.
Ouais, c'est ça.
Si je résume.
Donc là, c'est très bien. Par contre, moi, j'y allais pas tous les soirs. Ouais, voilà. Si vous voulez faire un resto tous les soirs, peut-être prévoir un petit peu plus d'argent.
Oui, on est d'accord.
Voilà.
Après, bon, au pire, vous prévoyez 10 000 euros et puis vous y allez pour 3 mois et puis vous vous éclatez, oui. Quoi. Tu fais l'orgie voilà. Tous les soirs et tu t'amuses. Bah écoute, bah, je te remercie beaucoup Christiane pour tous ces détails. Mais du coup, avant de te laisser Christiane, est-ce qu'il y a une chose, un élément qui t'a vraiment marqué là-bas et que t'as envie de partager ou pas?
Maintenant que tu le dis, c'est qu'en fait, partout où j'allais, j'avais pas peur en fait, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas en France. Mais partout où j'allais, n'importe quelle heure de la nuit, peu importe, j'avais pas peur. Même dans les quartiers dits chauds de Tokyo, je me sentais pas menacée. Je dis pas que c'est 100% sûr le Japon, mais il y a quand même une atmosphère rassurante. Et ça, j'apprécie beaucoup.
D'accord, donc si tu dois partager une chose et dire une chose, c'est vraiment que le Japon, c'est très sécurisant et t'as une ambiance très posée, calme, qui te permettrait de te sentir à l'aise et en sécurité. Bon, bah, je te remercie, Christiane, pour ton expérience, en tout cas. Je te remercie d'avoir bien voulu la partager avec nous. En espérant, chers amis auditeurs et auditrices, que ça vous a aidé pour avoir un petit projet et pour partir, d'avoir pour une fois une vision, non pas pessimiste, mais optimiste de la chose. Et dans le cas où tu as réussi à nous faire voyager, Matane minasan, à bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 dans l'émission Radio Nippon. Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de Flipside, un groupe de J-pop ayant débuté en 2003 de manière officielle. Après un changement de chanteuse en 2009 et la sortie de leur premier single Only My Reagan, servant d'opening à la série Toaru Kagako no Reagan, leur carrière s'envole avec la 3ème place du top Oricon et depuis ils ont pu réaliser de nombreux openings. Outre la chanteuse Nanjo Yoshino, qui double notamment Ellie de la série Love Live, le groupe a pu assurer les génériques des animés Ajin, Black Bullet, Seraph of the End et est en charge de tous les openings de la série Toaru Kagaku no Reagan. Ils nous reviennent donc cette année pour l'opening de Toaru Kagaku no Reagan T, et bien que la saison ait subi de nombreux retards dus à la pandémie, elle reprendra le 24 juillet pour notre plus grand bonheur. Troisième saison du Reagan, on suit la jeune Misaka Mikoto, puissante niveau 5, qui doit faire face à bien des difficultés. Je vous propose donc d'écouter l'opening de cet animé, Final Phase, par Flipside. Sur ce, bonne écoute, et à dans 2 semaines, même lieu, même heure, sur Radio Nippon.